Depuis la semaine dernière, la possibilité d'un rapprochement entre deux champions français, Suez d'un côté et Veolia de l'autre, suscite de nombreux commentaires et interrogations. Veolia a en effet proposé à Engie de racheter la quasi-totalité de sa participation dans Suez à hauteur de près de 30%. En quoi cette offre de rachat, si elle aboutit, pourrait-elle changer la donne dans le secteur de l'eau et des déchets? Quels sont les enjeux de cette bataille? Bonjour Nicolas Mazzucchi, vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des questions d'énergie. Alors tout d'abord, je vous propose, Nicolas Mazzucchi, de nous présenter ces deux entreprises. Qui sont-elles ?
Bonjour, Suez et Veolia sont deux entreprises françaises qui se ressemblent beaucoup. En fait, on pourrait dire que ce sont un peu des sœurs ennemies. Elles sont depuis très longtemps engagées justement dans ce secteur. Alors d'ailleurs, elles ont participé à la création en fait d'un secteur unique, ce qu'on appelle l'eau environnement, qui regroupe d'un côté tout ce qui est lié à la savoir l'adduction d'eau, la production d'eau potable, le traitement des eaux usées, et de l'autre côté tout ce qui va être plutôt lié aux déchets, la collecte, le traitement et aussi le recyclage. Elles ont connu toutes les deux durant les années 90-2000 une forme de diversification où elles ont été en fait incluses dans des entités plus grandes, hein. C'était Vivendi pour Veolia, c'était GDF Suez, puis Engie pour Suez. Et petit à petit, depuis le début des années 2010, chacune se recentre justement sur ce secteur ou environnement où elle se partage un peu le leadership mondial.
Et oui, alors comment justement ont-elles réussi à s'imposer sur le marché mondial, puisqu'on a affaire à des champions français?
Tout à fait, ce sont en fait les seules entreprises françaises, ou tout au moins le seul secteur au niveau à la fois français et international, où on a deux entreprises françaises qui dominent. Les deux premières sont justement Suez et Veolia, qui ont justement, parce qu'elles ont eu l'intuition toutes les deux de créer une structure qui soit plus une structure de service qu'une structure industrielle d'une part, et d'autre part elles ont eu aussi l'intuition que l'eau et l'environnement en fait c'était un seul secteur et que ça devait marcher ensemble, qu'elles ont justement réussi à avoir ce développement à la fois national et international extrêmement fort.
Et ce rayonnement international justement aujourd'hui, pourquoi pourrait-il conduire à une fusion? Quels sont les enjeux de cette fusion?
Déjà, il faut prendre en compte la situation actuelle, non pas de Suez elle-même, mais finalement du premier actionnaire de Suez, qui est Engie. Engie est une entreprise qui a beaucoup de difficultés économiques depuis un certain nombre d'années, y compris pour des raisons, on va dire, d'erreurs de stratégie industrielle. C'est une entreprise qui, pour l'instant, est encore en recherche de son nouveau directeur général. Donc, et puis la crise aussi, la crise économique qui s'annonce et qu'on voit commencer à poindre doucement. Donc finalement, pour Veolia, faire une offre auprès d'Engie aujourd'hui, eu égard au fait qu'Engie est quand même une structure qui est en recherche de capitaux justement pour recentrer sur son business majeur qui est énergie renouvelable et services à l'énergie, finalement ça fait sens. Donc il y a une vraie fenêtre d'opportunité finalement pour un acteur quelconque. Alors aujourd'hui c'est Veolia, mais
voilà,
ça pourrait
être quelqu'un d'autre. Ce que vous êtes en train d'expliquer, Nicolas Mazzucchi, c'est que cette fusion, c'est d'abord un billard à deux bandes, parce que en quelque sorte Veolia profite des soucis de l'actionnaire, enfin d'un des actionnaires, Engie.
Tout à fait.
Et ce n'est pas effectivement quelque chose d'anodin. Et profitant donc de ses ennuis, s'il rachète ses parts, il pourrait accroître sa taille. Mais au-delà donc de cette opportunité, parce que finalement c'en est une comme vous venez de l'expliquer, quels seraient les intérêts industriels de cette fusion?
Alors les intérêts industriels de cette fusion, ça serait de créer ce qu'on a en France, ce qu'on appelle un champion national, c'est-à-dire vraiment d'avoir une entité dominante qui soit à la fois le premier acteur sur le territoire français et de très loin, mais aussi qui soit un acteur extrêmement puissant au niveau européen et même au niveau mondial, puisque ces deux entreprises, finalement, ce sont à l'heure actuelle les locomotives de ce secteur, y compris en termes d'innovation, y compris en termes de nouveaux produits.
Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir deux champions qu'un seul super champion, Nicolas Mazzucchi? Je parle du point de vue de l'intérêt national.
Bien entendu. Alors, à la fois du point de vue de l'intérêt national, mais aussi finalement du point de vue de l'intérêt des deux entreprises, mon analyse, c'est que je pense qu'il vaut mieux qu'on continue sur le système actuel, parce que aujourd'hui, si jamais cette fusion devait avoir lieu, on est face à trois risques.
Lesquels ?
Le premier risque, c'est le risque sur l'emploi. Bien entendu, vous imaginez bien qu'avec des entreprises de cette taille-là, vous avez un certain nombre de fonctions qui seraient, notamment les fonctions support, qui seraient dupliquées en cas de fusion, c'est la stratégie, les ressources humaines, les affaires financières, etc. Donc si on imagine la fusion, ben, on n'aura pas besoin de deux directions de la stratégie, deux directions des ressources humaines, etc. Donc en cas de fusion, il y aurait véritablement déjà ce risque sur l'emploi qui existe.
Effectivement. Deuxième risque.
Voilà, deuxième risque, et qui à mon sens est le plus important et en termes stratégiques pour la France, c'est le risque en fait que s'il y a plus de concurrence, hein, s'il y a disparition de la concurrence à ce niveau-là, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de concurrence, puisque ce sont deux entreprises qui font à peu près la même taille, c'est la perte de l'émulation. Aujourd'hui, comme je vous disais, ces deux entreprises, c'est un peu les sœurs ennemies, elles font à peu près la même taille, à peu près le même chiffre d'affaires, elles se battent à peu près sur tous les contrats, et donc il y a véritablement une nécessité pour chacune d'investir énormément dans l'innovation, dans le développement de nouveaux produits. Donc ce qui explique aussi pourquoi ces deux entreprises sont leaders au niveau mondial, c'est justement cette émulation. Or demain, si on a une espèce de mastodonte hyper dominant, bah, cette émulation disparaît, et c'est peut-être là qu'on peut avoir justement la création de concurrents étrangers, ou tout le monde, le renforcement de concurrents étrangers qui aujourd'hui sont finalement plus en retrait.
Là, on vous suit aisément. Et puis le troisième risque, enfin ?
Alors le troisième risque, lui, se situe au niveau européen. On sait que la Commission européenne est toujours extrêmement attentive à ces questions de concentration industrielle. On a vu que la DG Concurrence au niveau de la Commission n'avait pas hésité soit à empêcher des fusions. Mmh. Ça a été le cas, par exemple, dans l'énergie, entre électricité du Portugal et gaz du Portugal, ou, si on se met dans le cas français, dans le cas de GDF Suez, à autoriser la fusion, mais en obligeant la nouvelle entité à lâcher des actifs. Bon, on se doute bien que dans un cas Veolia-Suez, eu égard au niveau de présence de ces deux entreprises sur la plupart des marchés européens, si jamais la fusion était autorisée, ce qui serait tout sauf gagné, il y aurait là certainement un certain nombre d'actifs à revendre. Donc, si on se dit, est-ce qu'on fait une fusion pour faire un méga champion, mais si c'est un méga champion qui commence d'ores et déjà, dès le début, à perdre des actifs, l'intérêt commence à être de plus en plus limité.
Merci beaucoup, Nicolas Mazouki, de nous avoir éclairé sur cette fusion. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il est 7h23 sur France Culture.